Et on retrouve Hélène Gravel qui s'installe en studio. Salut Hélène!
Allô!
Très heureux de te retrouver, Hélène.
Ben, c'est réciproque.
Je ne vais pas brûler le scoop, là, mais je dis ça comme ça, la semaine prochaine et la semaine suivante, vous allez l'entendre encore plus sur nos ondes. Vous l'entendez le matin? Peut-être dans une autre case horaire?
Oui, ben c'est ça. Je vais avoir le grand bonheur d'animer l'émission du midi, en fait. Puis je dois avouer là, que je commence à être un peu nerveuse.
Ah, oh, parle-moi de ça. Mais... c'est du bon stress.
Oui, ben je pense que oui. Puis tu sais, je pense que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Là, puis... De faire des entrevues pertinentes, d'essayer justement d'en apprendre davantage. Alors, je pense que ça va être juste du bonheur.
Ben, j'ai bien hâte qu'on se côtoie
au cours
des deux prochaines semaines. Pour ta chronique de ce matin, ben, ça, c'est un dossier que tu connais très bien, la pénurie de main-d'œuvre qui touche tout le monde. Et là, le Québec semblerait davantage touché que les autres provinces canadiennes.
En effet. En fait, à travers tout le Canada, là, il y a autour de 400 000 emplois à pourvoir. Puis là-dessus, il y en a 110 000 juste au Québec. Alors, c'est quand même énorme. Et évidemment, lorsqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle beaucoup actuellement d'immigration.
Oui.
Parce que le gouvernement, en fait, je dirais les gouvernements, se basent beaucoup justement sur l'arrivée plus massive d'immigrants pour venir combler les postes. Et on le sait, là, la loi sur l'immigration va changer, en fait, la façon d'attirer des gens. On va essayer d'attirer des gens qui ont les compétences pour pouvoir les postes qui sont justement à combler. On parle aussi, évidemment, du retour en emploi des retraités qui ont le goût de retourner travailler, soit parce qu'ils s'ennuient ou encore par manque financier. Oui. Mais curieusement, il y a quelque chose dont moi, j'entends jamais parler. Par exemple, Josiane et Jean-Sébastien, si je vous demandais, il y a combien de chômeurs actuellement au Québec?
Très peu. J'imagine.
Ouais. On a souvent un pourcentage.
C'est 5,4. C'est vrai que c'est beaucoup moins que ça l'a déjà été, mais ça représente quand même 240 000 personnes.
Mais est-ce que c'est parce que ces gens-là n'ont pas nécessairement la formation pour les emplois ou...
peut-être.
Le désir qui est peut-être moins
peut-être,
là.
Peut-être, mais une chose est sûre, j'entends très peu d'incitatifs de maillage entre les emplois pourvoir et les chômeurs. Et en plus, au-delà des 240 000 chômeurs, savez-vous combien il y a d'assistés sociaux aptes au travail? Il y en a 400 000 en tout, mais de ce nombre, à votre avis, combien sont aptes au travail?
Je dirais 100 000.
Oui, moi aussi, je dirais ça.
Il y en a 160 000. Alors, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a 110 000 emplois à pourvoir.
Ouais.
Il y a 400 000 personnes aptes au travail actuellement, chômeurs et assistés sociaux confondus, qui ne travaillent pas.
Ouais.
Alors, pourquoi est-ce que tout ce qu'on entend actuellement au niveau des incitatifs gouvernementaux, c'est l'immigration qui un peu les retraités? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Puis que, justement, il n'y ait pas, en temps réel, des maillages entre les emplois à pourvoir et les gens qui sont aptes au travail.
Ouais. Ben, moi, j'ai une petite hypothèse. Là. C'est probablement parce que ces emplois-là sont soit de moindre qualité ou moins payants, peut-être. Parce que souvent, les gens qui sont sur le chômage vont refuser d'aller travailler, ne serait-ce qu'un peu, parce que veux pas, bon, ça va couper ton chômage. Et ils se disent, tant qu'à aller travailler à des salaires, bon, c'est quoi, c'est 12 $ le salaire minimum autour de ça. Les gens, souvent, vont se dire que le salaire n'est peut-être pas assez important pour eux ou ça n'en vaut pas la peine. Ou vont travailler au noir, souvent. T'sais, ça, c'est une autre malheureuse situation.
Oui, tu as probablement raison. Mais la question que je me pose, c'est ces prestations-là, c'est nous qui les payons.
Oui, oui, tout à fait.
Alors que, même si, à ce moment-là, là, supposons qu'on parle du fait que si, hypothétiquement, tous ces emplois-là étaient des emplois au salaire minimum, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas venir bonifier, justement, un peu le salaire?
Mm-hmm.
Ça coûterait beaucoup moins cher que de continuer à payer des prestations ou de l'aide sociale.
Bien là, ça peut être intéressant si le gouvernement, justement, les garantit qu'ils vont rentrer dans leur argent avec...
Oui, une chose est sûre, on parle bien d'une hypothèse, parce que dans ces 110 000 postes-là, à pourvoir, il y en a des très rémunérateurs, des très intéressants.
Oui,
c'est pas tous des jobs au salaire minimum.
Non.
Mais moi, j'aimerais bien entendre, durant la prochaine campagne électorale, peut-être les différents partis nous dire qu'est-ce qu'ils comptent faire avec ça. Puis, tu sais, ces gens-là qui ne travaillent pas, il y en a plusieurs là-dedans que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est simplement qu'ils n'ont pas nécessairement l'intermédiaire pour leur permettre de trouver le bon emploi.
Ouais.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes gouvernementaux qui pourraient donner un coup de pouce là-dessus. Puis, ça coûterait pas mal moins cher.
Oui, c'est sûr que si on fait le calcul, c'est clair.
Tout à fait.
Clair. On va parler, Hélène, d'un de tes sujets de prédilection.
On est en zone de confort présentement, Hélène.
Je me suis donné ça facile, je pense, ce matin.
La croissance d'Airbnb comparativement aux gîtes.
Ben, en fait, on en parle aujourd'hui parce que ça fait 10 ans qu'Airbnb existe. Mm-hmm. On connaît la plateforme. Là, c'est une plateforme qui permet aux gens de choisir, par exemple, une chambre, un appartement partout à travers le monde. Actuellement, Airbnb compte 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui est énorme, et offre plus de 5 millions d'hébergements, que ce soit des maisons, des chambres, des condos, peu importe, et même des gîtes parfois qui sont un peu insolites.
Oui, oui.
On sait qu'actuellement, à travers le monde, il y a 1,4 milliard de touristes par année, et c'est 500 millions de plus qu'il y a 10 ans. Alors, les gens voyagent de plus en plus, et on dit que le phénomène Airbnb n'est pas étranger à ça, parce que, d'une part, auparavant, traditionnellement, on allait dans des gîtes ou des hôtels.
Ouais.
Maintenant, on va dans des gîtes, des hôtels ou dans des Airbnb qui souvent vont permettre, par exemple, à des familles, des parents avec trois enfants, de pouvoir louer une maison au même coût qu'une chambre d'hôtel. Alors, c'est la raison pour laquelle Airbnb est de plus en plus populaire.
Dans ce temps-là, tu as ta cuisine aussi. Tu es obligé d'aller au restaurant. Oui, c'est une façon d'économiser en voyage.
C'est ça, tout à fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas tant les hôtels qui écopent justement du phénomène Airbnb parce que les hôtels vont offrir des services que souvent dans les Airbnb, ils n'ont pas. Mais c'est les gîtes, les petits gîtes là, qui ont 4, 5, 6 chambres à louer. Et souvent, ces chambres-là étaient au même prix ou plus cher que ce qu'on peut retrouver maintenant sur le site d'Airbnb. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup moins de gîtes qu'il y en avait. On parle de 175 il y a quelques années, à peu près 90 actuellement. Alors, c'est la moitié moins de gîtes qu'il y en avait auparavant. Et certains propriétaires de gîtes disent tout simplement la raison pour laquelle on a dû fermer, c'est en raison d'Airbnb. Maintenant, ce qu'ils disent également, c'est qu'il faudrait qu'Airbnb, et là-dessus, je suis d'accord, paie les mêmes choses que, par exemple, quelqu'un qui opère un gîte, c'est-à-dire des assurances particulières pour chacun qui offre leur appartement sur le site d'Airbnb, mais aussi, surtout, les taxes. Et Airbnb, depuis le mois d'octobre, prélève la taxe sur l'hébergement, donc 3,5 %, grosso modo, uniformisé, ce qui a rapporté, depuis quelques mois, à l'État québécois, 3 millions de dollars. Alors, c'est pas rien. Mais il y en a plusieurs, dont moi, qui disent au gouvernement, demandez à Airbnb, comme ça se fait ailleurs dans certains endroits du monde, demandez à Airbnb d'également prélever la TPS TVQ. Alors, vous avez idée un peu comment ça viendrait mettre de l'argent dans les coffres du gouvernement, mais en plus, peut-être que ça deviendrait équitable pour tout le monde.
Oui, oui, tout à fait.
Il y en a tellement qui le font en plus, bon, c'est dans l'illégalité la plus totale, qui vont louer un logement, un propriétaire, qui lui diront pas qu'ils font sous-louer l'appartement à des gens sur Airbnb et au grand cauchemar des propriétaires d'édifices à logement qui veulent pas, quand tu loues un bail, tu t'attends à ce qu'il y ait un locataire. Puis souvent, tu loues comme ça parce que bon, tu as peut-être un peu moins d'argent à louer à l'année, mais tu es sûr que bon, tu vas toujours avoir un locataire, tu n'as pas de ménage à faire, puis de risque de bris, veux pas. Et là, il y a un paquet de propriétaires qui se plaignent de ça parce que justement, c'est devenu un fléau.
C'est ça, absolument. Surtout qu'actuellement, il y a des propriétaires qui, dans leur bail, maintenant, interdisent d'emblée à leur futur locataire de se louer. Et je les comprends parce que l'appartement n'a pas cette vocation-là. Maintenant, c'est vrai, un peu comme le disaient les représentants des gîtes, que Airbnb, c'est devenu une business. Parce que, grosso modo, là, dépendamment des secteurs, c'est trois fois plus payant de faire de la location courte durée que d'avoir des appartements à long terme.
À long terme.
Alors, c'est pas pour rien que les gens s'organisent. Mais il faut le faire dans toute la légalité possible.
Oui, tout à fait. Puis si on le fait en légalité, ça va justement peut-être disperser là, les gens qui le font juste pour l'argent puis pas nécessairement pour embarquer dans le phénomène et donner un bon service.
C'est ça. Et jusqu'à un certain point, surtout que, tu sais, il y a un permis qui s'appelle la CTQ, là, tu l'obtiens, c'est une certification pour faire de la location court terme. Cette certification-là garantit en même temps une norme de qualité. Alors, ça va donner des étoiles à l'hébergement qui est sur Airbnb. Mais ça serait bien qu'on ouvre davantage cette certification-là à un plus grand nombre de possibilités. Puis ça va tout simplement faire en sorte que les gens qui œuvrent dans l'illégalité se retrouveront même plus sur la plateforme Airbnb, qu'on aura à ce moment-là juste des gens qui payent leur cotisation pour avoir leur certification, mais aussi qui vont payer taxes et impôts sur les revenus qu'ils vont avoir. Alors, je pense que tout ça, là, on ne peut pas faire abstraction. Ce n'est pas un phénomène passager. Je pense que ce genre de plateforme-là, comme bien d'autres d'ailleurs, est là pour rester.
On le fait pour Uber.
Oui, bien,
c'est ça qui est paradoxal.
Tout à fait. Et moi, je me demande pourquoi le gouvernement attend, parce qu'Airbnb ne demande que ça de prélever la TPS TVQ. Alors, je ne sais pas pourquoi l'entente n'est pas déjà prise entre les deux.
Tout à fait, Hélène. Quel commentaire éclairé, comme à ton habitude.
Merci beaucoup.
Mon Dieu, vous êtes trop gentil.
On est élogieux. On veut te préparer mentalement là, à l'animation de nos actualités parce que...
C'est du renforcement positif.
C'est ça.
Jean-Sébastien, je compte sur toi pour le faire à toute minute.
Oh, ne t'inquiète pas. J'y serai. Un gros merci. Passe une belle journée. On te retrouve demain pour conclure la semaine à la même heure.